Merci Joël, merci à chacun de vous. Pendant cette période de ma vie qui était très dure, et pour vos prières, vos messages de tout genre, et je suis vraiment reconnaissant pour chacun de vous. Merci. Pendant toute cette épreuve, j'étais en paix, malgré l'anxiété, la tristesse, les douleurs, les incertitudes. Et je crois que d'autres personnes, dans les mêmes circonstances, ont aussi expérimenté ça. Depuis que je suis en France, d'ailleurs, tout le monde me parle de la santé. Ils ont dit, si vous avez la santé, c'est la plus importante. Je n'ai jamais entendu quelqu'un dire, non, ce n'est pas la plus importante. Donc, si vous avez la santé, tout va bien. Mais si vous n'avez pas la santé, il y a deux options. Vous êtes malade, et si vous êtes malade, vous êtes heureux ou pas heureux. Certains sont heureux de partir, d'autres non. Mais si vous êtes malade, il y a deux options. Soit vous allez guérir et tout va bien. Soit vous n'allez pas guérir et tout va mal. Si vous guérissez, vous êtes continué votre chemin. Sinon, vous risquez de mourir. Et si vous meurez, vous avez deux options. Soit vous allez au ciel et tout va bien. Mais si vous allez en enfer, vous avez deux options. Soit bien cuite, soit crispée. C'était une blague. Je n'ai pas passé, excusez-moi. J'ai voulu changer un peu l'atmosphère et j'ai raté l'occasion. J'entends la voix de ma femme. Il pense qu'il est drôle, mais il n'est pas. Voilà, toutes mes excuses pour cette erreur d'appréciation. Dans les années 60, avant la naissance de beaucoup ici, ou peut-être, Jacques Ellul écrit un livre d'illusion politique dans lequel il a vu qu'avec le passage de temps, la technologie, on fait en sorte qu'il y aurait trois domaines qui vont être liés ensemble, la politique, le médical et les technologies de toutes sortes. Et il a remarqué qu'il n'y a pas de solution politique de notre malheur dans le monde. On le voit bien autour de nous. La France est divisée, les États-Unis sont divisés, Israël, la guerre avec l'Iran, etc. Le monde ne va pas bien. Et quelle est la raison pour ça? C'est parce qu'on vit chacun dans une culture. Et nos cultures déterminent qui nous sommes avec la manière que nous nous pensons. La culture vient de nos cultes. Un culte, c'est ce qu'on croit. Pendant 2000 ans, la foi judéo-chrétienne avait un impact énorme sur la civilisation en Occident, qui nous a donné des libertés, qui nous a donné de la prospérité, avec des difficultés. Il a fallu lutter contre l'esclavage, les enfants qui travaillaient, le droit des femmes, etc. Mais on ne voyait pas dans d'autres cultures, ça. C'est le fruit de la foi judéo-chrétienne, que tous ces bienfaits étaient donnés, et nous sommes encore bénéficiaires aujourd'hui. Aujourd'hui, en abandonnant la foi judéo-chrétienne, l'Église devient une voix importante. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que les gens nous écoutent? Est-ce que les gens pensent que l'Église a son mot à dire? De moins en moins, les gens. Chacun de vous témoigne, et moi je témoigne aussi. Je témoignais encore ce matin. Mon espérance est dans la résurrection. Christ est ressuscité, et nous attendons la résurrection. La personne me regardait avec les grands yeux, je ne crois pas à ça. Dans toutes les civilisations, ce qui est le ciment, le lien qui fait que la civilisation puisse survivre, c'est les codes de civilisation qui est basé sur les croyances religieuses. Pourquoi l'islam existe? Parce qu'ils ont un code moral très fort. Pourquoi l'hindouisme existe? Parce qu'ils ont un code de conduite très fort. Et la même chose pour les chrétiens. Donc ces codes sont importants, mais ils viennent de nos cultures et de qui nous sommes. Quand Jésus était sur la terre, il avait enseigné la foi chrétienne. Et en fait, il est résumé ainsi. C'est très facile d'être chrétien quand vous le comprenez comme ça. Soyez comme lui, soyez parfait. Si vous êtes parfait, si vous êtes comme Christ, il n'y a plus de problème. Peut-être vous allez avoir des problèmes, mais vous allez les supporter sans difficulté. Il ajoute aussi, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et là, chercher le royaume de Dieu, ça veut dire vivre sous la seigneurie de Christ. Il a dit, allez, faites des disciples des nations, enseignez-les et baptisez-les. Et donc, le message de la Bible est très clair. Et nous comprenons ça, parce que Christ nous a donné. Mais qu'est-ce qu'on fait quand nous sommes des chrétiens dans une civilisation où on devient des minorités, où nous ne sommes pas respectés, comme Myanmar, où les chrétiens sont pourchassés, persécutés, ces pasteurs qui doivent se cacher dans les jungles. Prions pour eux, j'ai dit, Seigneur, fais en sorte qu'ils puissent reconnaître dans la jungle ces arbres, peut-être des maisons pour eux, grâce à toi. Mais on ne peut pas imaginer la persécution des chrétiens comme ça. Notre tradition protestante, nous avons les Huguenots qui ont beaucoup souffert, certains ont les ancêtres qui étaient les Huguenots. Alors, c'est difficile. Hein? Et en d'autres termes, nous sommes maintenant des étrangers dans notre propre culture. On voit bien que nos valeurs ne sont pas respectées sur tous les fronts. Mais ce n'est pas la première fois qu'en histoire du peuple de Dieu qui avait des difficultés. Rappelons-nous en Lévitique 19, Dieu a parlé à travers Moïse. Cette fois, dans ce passage, il dit, je suis le Seigneur, je suis le Seigneur. Et il a rappelé les gens à l'ordre. Et d'ailleurs, il a pris les 10 commandements, certains, mais dans le désordre, il a commencé, honorez vos parents. Parce que ce moment, le peuple de Dieu n'honorait pas les parents. Il y a raison, la culture autour d'eux, les autres pays, avait d'autres valeurs qui ont infiltré Israël. Et c'est pourquoi dans ce texte, Lévitique 19, nous trouvons ces choses qui peut-être pour certains semblent bizarres. Touchez pas le côté, quel est le nom en français pour les cheveux qui deviennent là? Il y a un terme en anglais, sideburn, ce côté-là. Bon, bref, je ne sais plus. Ne touchez pas. Et donc on voit les juifs orthodoxes avec ça qui pensent, parce qu'il y a ce passage. Et aussi dans ce passage, ne faites pas de tatouage. Et on voit encore d'autres choses qui me semblent difficiles, mais tout cela était lié avec quelque chose. La culture ambiante, parce que c'était des pratiques païennes autour d'Israël qui commençaient à influencer le peuple de Dieu. Et donc Moïse, à travers le Saint-Esprit, en rappelant cette fois, je suis le Seigneur, il a donné ses prescriptions. Maintenant, faites attention. Ces prescriptions étaient pour ce moment dans l'histoire du peuple de Dieu. Parce que tout cela était lié avec des rituels, des rites païens. Donc, ils ne sont pas pour nos jours. Et donc, on n'a pas besoin, on peut aller avoir un coiffeur, on fait couper les cheveux. Il y a des jeunes qui vont faire le tatouage. Mais malheureusement, il y a des gens qui vont regarder ça en disant, « Ah, la Bible t'interdit à faire ça. » Mais en fait, non. C'est le culte des païens qui était interdit. Et il ne faut pas ressembler à ces personnes autour de vous. Donc, la culture va déterminer beaucoup de choses. En Matthieu 5, Jésus explique, en plus de détails, avec la béatitude, la vraie nature d'un chrétien. On vient avec les mains vides. On est pauvre en esprit devant Dieu. Qu'est-ce qu'on peut offrir à Dieu? On n'a rien. On a chanté tout à l'heure, « Je t'offre ma vie ». Mais ma vie est sale. Mes meilleures œuvres, même en tant que chrétien, sont toujours remplies de saleté. Parce que rien n'est pur en moi. Le Seigneur m'a purifié. Cette exhortation de continuer à être sanctifié continue à travers la Bible, de ressembler de plus en plus à Christ. Et nous prions par le Saint-Esprit de nous offrir ça et par la parole. Et donc, ici, en Matthieu 5, je lis le verset 17. Jésus dit, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu pour abolir, non pour abolir, mais pour accomplir. » Et un peu plus loin, en Matthieu 5, verset 38, Vous avez entendu qu'il était dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur le joue droite, tends-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te traîner en justice et prendre ta tunique, laisse-toi encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donnez à celui qui te demande et ne se détournez pas de celui qui veut emprunter de toi. Prions. Seigneur, merci pour ta parole, cette parole qui est vivante et efficace dans nos vies. Merci, Seigneur, que cette parole ne va jamais ne pas avoir un effet dans nos vies. Elle va toujours nous façonner, soit pour endurcir parfois, mais la plupart du temps pour nous transformer davantage en ton image, Jésus, d'être comme toi. Fais de nous, Seigneur, tes disciples fidèles et accorde-nous être attentifs à ce que tu nous dis ce matin. Revenons aux cultures. Les cultures premières de communication. Je suis missionnaire en France depuis 46 ans maintenant. Et je travaille toujours, je n'ai pas la même force qu'autrefois, mais néanmoins, je continue à servir. Je suis toujours aumônier à la faculté Jean Calvin. Et quand je suis arrivé, il a fallu que je m'adapte. Bon, ma femme était pour beaucoup, elle m'a beaucoup aidé, bien qu'elle pleure que mon français n'est pas toujours parfait. Mais bon, chacun a ses forces et faiblesses. Et là, c'était une de mes faiblesses. Et elle avait ses propres faiblesses, mais je ne vais pas parler d'elle. Et donc, là, il a fallu m'adapter à la culture, à la nourriture, de manière. Et je continue à m'adapter quand je vois que je suis en décalage avec la culture française. Et donc, la culture, je devrais entrer dans cette culture. Et la culture, chaque culture a des paradigmes, des idées qui vont définir. Et dans nos enseignements à la fac, on essaie d'enseigner à ces étudiants qu'il y a trois paradigmes. Il y a la culture de l'honneur et de la honte, la culture de la peur et le pouvoir et la crainte, et le troisième, la culpabilité et le pardon. Quand vous êtes en train de parler avec quelqu'un qui vient d'une culture de honte, hein, et qui a cette idée que je ne mérite rien, je n'ose pas lever ma tête, c'est honteux, et vous prêchez avec lui, vous êtes pécheur, vous avez besoin d'être pardonné, ça ne va pas communiquer. Si vous êtes dans une culture où vous vivez dans la crainte et la peur, qu'est-ce qui va s'arriver? Vous allez toujours trouver un moyen d'essayer d'apaiser des dieux avec des rites, des cérémonies. Les gens vont dire, Seigneur, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je suis allé ce matin, je fais ça, et protège-moi contre les mauvais oeils, etc. Alors les cultures vont véhiculer des idées sur qui vous êtes. Quand on fait l'évangélisation dans les rues à Aix avec les étudiants, j'enseigne cela. Je dis qu'il faut que s'adapte chaque personne. Un musulman s'arrête. Je mets mon bandage et dis, je suis honoré que vous accepterez de parler avec moi. Et je pose des questions par rapport à ce qu'il a honoré Dieu. Comment il va faire pour que les balances soient en sa faveur ou non. Et petit à petit, on parle de l'évangile. Quand je croise quelqu'un qui vit dans la crainte et le pouvoir des superstitions, il y a pas mal de ces choses en Afrique subsaharienne, ainsi qu'en Amérique du Sud, et même dans certaines parties de l'Église chrétienne, l'Église catholique romaine, on vit dans la crainte et la peur. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas être sûr d'être sauvé. On est toujours avec des choses à faire afin que Dieu nous soit agréé. Alors, ces personnes-là, comment adapter le message à chacun, puisque l'identité est là? Vous pensez que vous habitez au Kenya, et les Maasai. Quelle est l'éducation d'un jeune homme parmi les Maasai? Il doit, pour être un homme dans le passé, il a fallu aller tuer un lion. Pourquoi? Parce qu'avant qu'il assume le rôle de mari, d'un homme de famille. Il a fallu montrer qu'il est capable de protéger sa famille. Aujourd'hui, je crois que les lions sont protégés, et donc ils ont donné un autre défi. Quand un lion a tué un animal en train de manger, aller dérober le lion de sa nourriture. Il faut avoir un certain courage pour le faire, beaucoup. Il faut avoir des astuces pour savoir le faire. Nous, dans notre culture, on n'éduque pas nos enfants comme ça. On éduque nos enfants pour de travailler avec les mains, de devenir des techniciens, ou de travailler dans une université ou dans une entreprise, chacun selon leurs dons. Et c'est pour le survie de leur famille dans cette culture aussi. L'important pour nous, c'est observer, écouter, s'adapter, prier, et d'apprendre à vivre avec les ambiguïtés des autres. Il y a des gens qui ont des pratiques, des idées, que je ne partage pas. Mais puisqu'ils ne sont pas liés avec des doctrines essentielles de la foi chrétienne, je peux vivre avec ces ambiguïtés. Il y a certaines doctrines qui sont importantes, mais qui sont secondaires. Quelles sont ces doctrines? L'interprétation de l'Apocalypse, avec les différentes écoles sur le millénium, ça c'est secondaire. Il y a la manière que l'Église est organisée. Il y a des églises qui ne veulent pas avoir des pasteurs, d'autres oui. Pour moi, c'est secondaire. C'est des choix entre les gens. Mais la Trinité, la divinité de Christ, le mort et la résurrection de Christ, ce n'est pas secondaire. Il y a aussi une doctrine qui est structurelle. Et ces doctrines structurelles, pour nous, dans les églises réformées, c'est l'alliance, notion alliantielle. Tout cela structure le reste. Sans cette structure, nous ne sommes plus une église réformée. Et donc, les structures, j'ai un ami, plusieurs amis, des pasteurs pentecôtes, et les structures, il faut que les pasteurs parlent en langue. S'ils ne peuvent pas parler en langue, ils sont exclus d'être pasteurs dès l'entrée. Et moi, je peux vivre avec cette ambiguïté avec mes frères pentecôtes. Je ne peux pas être pasteur pentecôte parce que je ne parle pas en langue. Donc, on observe, on s'adapte et on entre dans la culture. Jésus est en train d'ici d'expliquer à son peuple qu'il y avait d'autres attentes. Le peuple, à ce moment-là, attendait une libération politique, une libération de jugs de Romains qu'il a imposé. Ils ont voulu être débarrassés de ça. Mais Jésus est venu pour faire autre chose. Ils ne comprenaient pas. Le Messie devrait faire tout ça selon eux. Mais ils ont oublié que le Messie promis devrait venir souffrir et payer les dettes de son peuple. Et d'être débarrassés de ce qui nous domine politiquement, ce serait avec le retour du Christ. Parce qu'avant ça, le monde continuait à essayer de dominer et persécuter les chrétiens. Donc, dans les trois histoires que j'ai lues, il y avait dans cette culture des gens qui ont souffert. Par exemple, un soldat romain, il est en train de marcher. Joël, viens là, s'il te plaît. Je suis le soldat romain et Joël bloque ma route. Alors, qu'est-ce que je fais? Je tape son genou droit. Mais pour le faire, je ne peux pas donner un coup, il faut donner le revers de ma main. Merci. Il faut donner le revers de... Vous avez espéré autre chose, d'accord. Alors, le revers de ma main. Parce qu'à ce moment dans l'histoire, la main gauche était pour les raisons hygiéniques, donc on ne peut pas donner un claque comme ça. Puisqu'on n'est pas des égaux, soldats supérieurs aux gens qui étaient sous notre jug, je ne peux pas te traiter comme un égal, donc dégage-toi. Les hommes faisaient ça avec les femmes. Ceux qui étaient maîtres des esclaves faisaient ça avec les esclaves, toujours sur le joug droit. Et Christ dit, quelqu'un, il y en a encore. Cette fois-ci, c'est le vrai. Donc, je tape, et puisqu'il est chrétien, il va me dire, allez, tape l'autre aussi. Mais maintenant, je suis troublé. Parce que pour toucher sa joue gauche, je ne peux pas faire avec ma main gauche. Il faut faire un poignet et le frapper. Merci. Et Mais on n'avait pas le droit dans cette culture, à part si on était des égaux, à donner un coup avec un poing. Deux soldats qui se battaient, oui. Deux hommes mariés, peut-être. Mais en tant que soldat romain, je ne pouvais pas lui donner. Et donc, d'un coup, je suis désarmé. Il y a un problème dans mon esprit. Pourquoi il a fait ça? D'abord, il a la paix et la certitude que le Christ veille sur lui. Et ça lui donne l'occasion de témoigner dans cette culture, parce qu'il n'a pas refusé le claque sur le joue droit, mais est allé plus loin pour retourner la situation pour un témoignage. La deuxième histoire, c'est semblable. Vous êtes traîné dans un cour, et vous êtes pauvre, vous êtes endetté. On voit ça dans l'Ancien Testament. Et quand vous avez laissé des gages, par exemple votre manteau, il a fallu que votre créditeur vous rende le manteau le soir, afin que vous ne soyez pas froid. Mais à cette époque, tout cela était mis dans l'oubli. Et donc Jésus dit, quand vous êtes traîné devant un tribunal, ils vont prendre votre tunique maintenant, vous laissant le manteau, parce qu'ils ne sont pas bêtes. Il n'y avait pas les sous-vêtements sous les tuniques. Et donc vous êtes couvert simplement avec le manteau. Donc, la tunique est donnée, et Christ dit, va plus loin, donne le manteau aussi. Maintenant, vous êtes nu devant tout le monde. Et dans cette culture, la nudité n'était pas honte pour la personne qui était nue, mais contre la personne qui vous a mis dans cette situation. Des brigands, quelqu'un, un créditeur. Et donc, de nouveau, Christ est en train de dire, votre dignité se trouve en moi. Vous en faites pas pour ce que les hommes vont vous faire. Aller plus loin pour témoigner. Parce que les gens vont dire, mais qui a fait ça? Pourquoi? Vous expliquez et cette personne va, j'espère, se repentir de son attitude de réduire quelqu'un avec, d'avoir rien de tout. Et donc, encore, Christ montre comment on peut renverser la situation. Le troisième, les troupes romaines avaient le droit de réquisitionner votre travail. Supposons que on est occupé par une armée. Et il y a un capitaine des armées étrangères qui arrive chez nous et dit, voilà, tous les hommes qui ont 77 ans, et moi, comme ça, je ne suis pas conscripté, là, je suis tranquille parce que 78 ans, je ne peux pas me prendre. 77 ans et moi, venez avec moi, vous allez porter nos packs, nos sacs d'eau. Vous, les hommes, vous allez dire, alléluia, et amen, on est contents. Parce que, pas encore, déjà, deux mois, ça m'est arrivé. Et les soldats, ils ont la loi stricte. Vous êtes obligés à porter leur pack. Et leur pack pesait à peu près 30 kilos, leur sac. Et vous êtes obligés de faire un mille avec eux, un kilomètre et demi à peu près. Et alors, votre pasteur Tim est là ce matin, le matin. Et donc, il dit, on y va, les gars, on y va. Au bout de à mille, les soldats vont vous dire, rendez-nous nos affaires. Et Tim, en tant que votre pasteur, il va dire, non, 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 on va continuer, on va porter ça pour vous. Le capitaine va dire, je n'ai pas le droit de vous forcer de faire ça. Mais non, non, vous ne forcez pas. On voit bien que vous êtes fatigué, on va vous rendre un petit service de notre libre arbitre, on va vous servir, on va aller plus loin. Et donc, d'un coup, de nouveau, la situation est transformé. Pourquoi vous faites ça? Parce que nous sommes chrétiens. Et ce n'est pas à moi qu'on fait ça pour vous. Mais on vient de vous maltraiter. J'étais frappé l'autre jour sur le joue droite. Oui, mais rappelle-toi, j'étais pendu l'autre. Et aujourd'hui, vous faites ça encore. Oui. Et donc, Christ était en train d'expliquer que nous, les chrétiens, on peut vivre dans toutes les cultures comme des serviteurs qui marchent avec le Seigneur. Il y a sans doute beaucoup d'histoires qui peuvent être racontées par les missionnaires de manière qu'ils sont adaptés, ou peut-être dans vos propres vies. Mais c'est là que le Seigneur a voulu nous enseigner. Vous êtes capable de maintenir votre dignité, vous êtes capable d'être un serviteur de Christ, et vous êtes capable d'aller plus loin toujours, même dans les circonstances les plus difficiles qu'on vient de dépeindre ici. Il a terminé aussi, quand quelqu'un vous demande, vous le donnez. Vous n'avez pas grand-chose, vous le donnez quand même. parce que Dieu est... Pardon. J'espère que je n'ai pas cassé quelque chose. C'est bon? Je parle avec mes mains. Alors, donnez quand quelqu'un demande. Je n'ai pas grand-chose à donner. Donnez quand même, parce que Dieu est très généreux. Et vous allez montrer que même vous n'êtes pas très riche, vous allez donner, vous allez partager, vous n'allez pas refuser de prêter, sans chercher d'être remboursé. Autre terme, Christ, il termine le sermon sur la montagne, ici en chapitre, on parle de termine, il résume tout ce qu'il est en train de dire. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et à travers toute la Bible, il y a cette notion d'être parfait. Débarrassez-vous de toute colère, de toute rancune, toute amertume. Soyez des imitateurs de Dieu. Le texte que je vous ai lu ce matin. Ainsi donc, comme les Dieux saints et bien-aimés, revêtez-vous d'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a à se plaindre d'autres, comme Christ vous a pardonné, vous aussi pardonnez. Mais par-dessous de tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Merci Joël pour le passage. D'ailleurs, parenthèse, j'accompagne des jeunes pour préparer leur mariage et je demande, est-ce que vous pouvez mémoriser ces deux versets, 12 et 13, parce que ça va vous aider dans votre couple. En tout cas, le but de tout ceci, c'est que nous soyons les lumières qui brillent dans les ténèbres, que nous sommes le sel de la terre, que nous sommes des vrais disciples de Christ. Et d'ailleurs, ce n'est pas simplement théorique. Qu'est-ce qui s'est passé avec Christ? Il était obligé de porter sa croix. Il était mis à nu quand il était. Et d'ailleurs, les Romains vous mettraient à nu pour être crucifiés. Et il était frappé par des soldats. Et quand quelqu'un lui a demandé sur le croix, Christ a donné, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Alors, Christ est en train de nous expliquer comment il faut être des chrétiens. Et en disant ça, il y a une grande libération pour nous. Parce qu'on n'a pas besoin, après, de dire, « Seigneur, est-ce que j'ai fait assez aujourd'hui ?»« Oh, Seigneur, peut-être que je n'ai pas fait assez. »« Seigneur, tu as tout fait, je suis attaché à toi. » »« Je faisais ce que je pouvais. » Pendant cette épreuve avec ma femme dans l'hôpital, pendant 5 semaines, j'étais à son chevet tous les jours. Le soir, quand j'essayais de prier, j'étais tellement fatigué, tellement épuisé. Je fermais mes yeux pour prier et je dormais. Je me disais, « Ah, Seigneur, pardonne-moi, je dormais pendant que j'ai prié. Je vais continuer à prier. » Je ferme mes yeux pour prier, je dors de nouveau. J'ai commencé à me sentir coupable. « Seigneur, je ne suis pas en train d'honorer, je devrais prier. » Mais chaque fois que je ferme mes yeux pour me concentrer, je dors. Et le lendemain, dans la grâce de Dieu, quelqu'un avait parlé au pape, je ne sais pas lequel son nom, je pense que c'était François là qui vient de mourir. Je ne sais pas, il dit le nom, quel est le terme en catholique quand on s'adresse au pape, je ne sais pas le Seigneur, il y a un autre terme. Bon, il dit, je vois que vous dormez pendant que vous priez. Il dit, oui, je sais, mais mon Père Céleste aime bien que je dors entre ses bras. Comme des parents aiment beaucoup que les enfants dorment entre les bras. Et j'étais libéré. Je dis, Seigneur, tu comprends, tu intercèdes pour moi, je suis entre tes bras. Alléluia, merci Seigneur. Il y avait d'autres choses qui me tracassaient aussi, avec tout ce que j'ai vécu. Il y avait un approfondissement dans certains textes. Je ne sais pas si vous avez reçu les lettres que j'ai écrites pour révéler et demander des prières, mais j'ai écrit des nouvelles et j'ai médité sur certaines écritures saintes. Et ça m'a donné, ça faisait de bien à mon âme, on parle comme ça. Bon, il y avait des retours que ça faisait de bien à certaines personnes. Alors je disais, Seigneur, tu vois, je suis là, avec ta parole et tu m'as accordé de mieux comprendre. Et donc à travers cette épreuve, grâce à ce qui t'est arrivé à Martine, tu as approfondi ma propre foi. Tu étais avec moi. maintenir en paix. Elle est séparée de son corps qui se repose, son corps se repose dans un cercueil, mais ton âme est avec toi. Tu as déjà expérimenté ça, Seigneur. Et au bout de 3 jours, tu t'es ressuscité, réuni avec ton corps. Et nous attendons ça. Et maintenir est saine et sauf entre tes bras. Et cette certitude me réconforte énormément, même dans la tristesse. Et donc ma propre culture, ma propre compréhension des Écritures saintes à travers les épreuves, à travers les méditations des Écritures, me transforme jour après jour. J'espère que quelque part ce matin, à part la blague que j'ai ratée tout à l'heure, vous avez pu retenir certaines idées pour fortifier votre foi. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci, Saint-Esprit, que tu corriges nos prières. Tu nous présentes devant toi, Seigneur, et c'est un parfum agréable. Merci pour tes promesses précieuses, cette encre que notre espérance est sûre et certaine. Sois loué, maintenant et à jamais. Amen. On va chanter un cantique de transition avec le Saint-Saint.